Olana Glass.
Parce que c'est un gros projet qui est au service des équipes de France.
Olana Glass.
Le but premier, c'est d'abord de développer la joueuse, de développer la personne.
Olana Glass.
La structure du pôle, dès le départ, c'est sûr que ça m'a amené une façon aussi de travailler avec des entraînements hors glace pratiquement quotidien.
Bonjour à tous et bienvenue à Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Pour ce dernier épisode de la saison, on a voulu boucler la boucle. On a commencé avec l'équipe de France féminine de hockey. On souhaitait vous parler aujourd'hui du pôle France féminin. Et pour parler de ce pôle France, un peu comment il est organisé, comment ça fonctionne, quel est l'objectif, comment le staff travaille, on a la chance d'accueillir ce soir Jean-Baptiste Chauvin, qui est le responsable du Pôle France. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Il est accompagné de Sébastien Roujon, qui, vous le verrez, travaille à la fois avec l'équipe de France féminine en tant qu'assistant coach, et également coach de mémoire, il va nous confirmer, du Pôle France. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir tout le monde.
Et puis, on ne pouvait pas parler du Pôle France sans parler des joueuses. Et comment elles voient le Pôle France, comment elles le vivent. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Laure Baudry. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Merci d'être là. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais m'adresser à toi Jean-Baptiste, parce que tu es le responsable du Pôle France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la structure ? Alors, comment fonctionne la structure ? C'est en termes de détection et au quotidien, à partir de quel âge on peut rentrer dans le Pôle France, jusqu'à quel âge, ce type de questions qu'on peut se poser.
Le Pôle France, y a beaucoup à dire sur la détection et sur comment ça fonctionne, parce que c'est un gros projet qui est au service des équipes de France, et notamment, nous, ce qui nous anime au quotidien, c'est la qualification aux Jeux Olympiques de l'équipe de France senior. Je veux dire, c'est un maillage sur l'ensemble du territoire qui nous permet de détecter ces joueuses, d'évaluer ces joueuses pour leur permettre de se développer au plus haut niveau et de fournir les meilleures joueuses aux équipes de France. Donc, les conseillers techniques nationaux, les conseillers techniques de ligue nous remontent au staff des équipes de France les évaluations, je vais dire, des joueuses. Il y a bien évidemment le stage fédéral qui a lieu tous les étés. Pendant lequel on accueille sur 2 semaines environ 120 joueuses entre 8 et 18 ans. Et puis il y a les échanges qui sont très réguliers avec les coachs de club. Après, sur la durée, il n'y a pas de date de fin, de date limite, même si on accompagne les joueuses tout au long de leur scolarité et de leur développement dans les équipes nationales.
Si je résume, en fait, c'est un projet qui est porté par la fédération, mais aussi en lien avec les clubs. Et c'est pas uniquement sportif. Je pense que ça, c'est important de le mettre en avant parce que, je sais pas, là, comme ça, est-ce que dans d'autres sports, c'est quelque chose qui est fait de manière aussi poussée en France?
Là, je pourrais pas te répondre directement parce que je connais pas assez les structures des autres fédérations. Je sais que pour nous, en tout cas, c'est très important, comme je te disais. Cet aspect de double voire triple projet d'accompagner les filles sportivement sur le haut niveau et dans leur vie de jeunes femmes et puis que ce soit scolaire ou socialement.
Et donc la détection, après elle rentre dans le Pôle France et là intervient Sébastien. Sébastien, toi tu fais le lien avec les filles du Pôle France, les joueuses du Pôle France. Et toi, tu as une deuxième partie de détection pour voir si potentiellement elles peuvent intégrer certains collectifs équipe de France. C'est ça ton rôle ?
Dans un premier temps, il faut savoir qu'on est 3 à travailler au Pôle France. Il y a Jean-Baptiste qui est manager, il y a Jérôme
qui est préparateur physique,
puis moi-même donc qui est entraîneur. Et puis à l'intérieur de ça, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a énormément d'autres personnes qui travaillent autour, des kinés, docteurs. On a un professeur, donc c'est vraiment une structure où il y a énormément de personnel. Et en effet, le but de cette structure, le but premier, c'est d'abord de développer la joueuse, de développer la personne. Comme il disait Jean-Baptiste, c'est un triple projet, donc l'aspect scolaire, l'aspect social. Et mon rôle, c'est d'essayer de développer l'aspect technique en lien avec Jérôme, qui est la particularité physique. Et aider la joueuse à franchir les étapes. Et c'est là où il y a le lien direct avec les équipes de France et donc le travail de Greg, qui est entraîneur national de l'équipe de France senior et en même temps responsable de la performance, où là, on établit les différents échelons, U16, U18, seniors, et on doit mettre en place un processus de développement avec un programme bien déterminé en fonction de l'année où rentre la joueuse. Par exemple, une année qui rentre en seconde, elle a un programme identifié, une joueuse qui rentre en première, elle a un autre type de programme, avec la volonté que la joueuse, c'est pour ça que je reviens sur cette idée de développement de la personne, soit en sortant, l'objectif final, c'est qu'en sortant de la structure, c'est que la personne soit la plus responsable possible dans ces trois projets, qui sont en fait le projet d'une seule et même personne, hein, on l'a découpé comme ça. Et donc, toutes ces étapes sont mises en place avec des jalons tout au long de l'année, soit par rapport aux regroupements internationaux, donc en relation directe avec les évaluations des entraîneurs nationaux, et puis nous, avec notre propre processus de développement et d'évaluation à l'intérieur du Pôle France. En gros, ça représente un volume de 11 séances semaine, entrecoupées de séances glace et hors glace, et ça sur un planning annuel d'allant de septembre jusqu'à mi-juin. Là, par exemple, en ce moment, on est dans une phase de préparation physique glace et hors glace. Mais toute l'année, on segmente l'ensemble du programme pour que la joueuse puisse avoir un développement le plus uniforme possible pour qu'elle puisse être armée à jouer au haut niveau. Et l'objectif final, comme on le dit souvent aux parents, c'est d'essayer que la joueuse puisse taper aux portes de l'équipe de France senior. Et puis, comme on l'a vu dernièrement, Laure pourra aussi exprimer avec son expérience, c'est que les joueuses sortant du pôle puissent espérer être compétitrices dans un grand championnat international, Canada, Suède, Finlande, etc. Donc, voilà un petit peu pour vous présenter rapidement l'aspect développement de la personne à l'intérieur du Pôle France.
Effectivement, avant de poser la question à Laure sur son expérience, il y a combien de joueuses aujourd'hui au Pôle France ?
On a 24 joueuses.
24 joueuses qui vont de 16 à 22, 23, je crois. 20 ans.
Ouais.
Alors justement, cette expérience du Pôle France, Laure, comment tu l'as vécue ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
C'est sûr que déjà, moi, le Pôle France, sans dire que c'est mieux ou c'est moins bien ou c'était différent. Moi, je suis rentrée au pôle, c'était en 2008 à l'ouverture du pôle. Donc évidemment, c'était une autre structure dans une autre ville avec d'autres personnes. À l'époque, il n'y avait pas trois personnes et un gros staff. Il y avait juste Christine qui était là et qui faisait à peu près tout. Donc voilà, le pôle, il a beaucoup évolué. Moi, quand je suis rentrée, c'était les débuts du pôle. Mais par contre, ce que ça m'a amené, c'est sûr que c'était... J'étais en sport-études avant, mais la structure du pôle, dès le départ, c'est sûr que ça m'a amené une façon aussi de travailler avec des entraînements hors glace pratiquement quotidien. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été un plus pour la suite de ma carrière. Et être capable d'encaisser les charges aussi de travail. On a été toutes regroupées aussi avec les joueuses, les top joueuses françaises. À l'époque, il n'y avait pas vraiment que des jeunes, on était de tout âge, c'était presque toutes les joueuses de l'équipe de France qui se sont retrouvées au pôle au départ, parce qu'il n'y avait pas de joueuses à l'étranger à ce moment-là, ou très peu. Et donc c'était encore aussi différent, on n'avait pas le même âge que les jeunes qui sont là aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'était le début d'un nouveau projet, en fait, je pense, pour l'équipe de France féminine. Et je pense que c'était ça aussi l'ambition de Chris, sans parler pour elle. Mais je pense qu'elle voulait vraiment amener cette dynamique-là aussi, donner une structure aux jeunes joueuses ou même aux seniors, donner une structure d'entraînement dédiée pour les filles. Et je pense que ça, c'était une grande première. Et puis, comme disait Seb, ça nous a aussi donné la possibilité de se développer dans une structure, d'apprendre aussi à avoir des entraînements quotidiens, du hors-glace, de la glace, et par la suite, de pouvoir espérer partir à l'étranger dans un championnat pour vivre autre chose, pour aller chercher une autre concurrence aussi. Pour moi, c'est ce que je retiens du pôle aussi, c'est cette structure d'entraînement qui m'a permis aussi de passer à l'étape supérieure.
Eh ben, justement, j'ai deux questions. Tu l'as un peu répondu. La première, c'est de se dire que sans le Pôle France, ça aurait été compliqué d'aller dans un championnat étranger, probablement.
Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que... en tout cas, ça nous a fait passer des étapes plus rapidement que, je pense, si on était resté dans nos clubs avec moins d'heures d'entraînement, pas vraiment de préparation physique encadrée. Donc, c'est sûr que Je pense que notre développement, il s'est accéléré quand on a intégré le pôle. Moi, j'ai intégré le pôle, j'étais déjà en équipe de France senior, donc c'est un peu différent. Et la plupart des joueuses de ma génération, on a intégré le pôle, on était déjà en équipe de France senior. Donc après, c'est aussi, il y a des portes qui sont ouvertes, en fait, aussi, pour parce qu'on dit le pôle, mais c'est aussi, je pense, des joueuses qui ont ouvert des portes à l'étranger. Marion, c'est la première joueuse qui est partie jouer universitaire au Canada, donc ça a ouvert des portes au Canada. Il y avait eu Virginie Boetz qui était partie un peu avant elle, mais qui avait joué dans la Ligue canadienne. Betty qui a été la première à partir en Suède. Maintenant, il y a Chloé qui est aux États-Unis, il y a des filles qui sont en Finlande. Donc je pense que ces portes-là, on a réussi à les ouvrir aussi pour les autres générations. Donc je pense que c'est, oui, lié au fait qu'on est capable aujourd'hui d'entraîner nos jeunes joueuses dans une structure qui a une grosse charge de travail et elles s'habituent, si je peux dire, à ça, parce qu'elles auront ça en universitaire ou dans des championnats comme la Suède ou la Finlande. Mais c'est aussi parce qu'on a ouvert des portes, je pense, que ben on peut aussi envoyer nos jeunes joueuses qui sont plus développées, même techniquement et physiquement, que nous, probablement nous à leur âge, quoi, parce qu'elles ont pu bénéficier de plus rapidement cette structure-là, quoi.
Sur ce Pôle France, c'est un petit peu aussi le repère de la famille, parce que quand on a quelques problématiques, on peut revenir, même quand on est parti jouer à l'étranger. Si on a quelques problématiques physiques, il faut se remettre en forme. On a toujours la porte ouverte au Pôle France ?
Oui, je pense que même avant, quand on était sur Chambéry, si on voulait avoir de la glace, même peu importe si on était à 100% pour ça, c'est sûr que c'est aussi agréable, si je peux dire, de se dire, bah voilà, on peut avoir aussi accès à de la glace, à une bonne structure n'importe quand dans l'année. Cette année, avec le Covid, il y a des filles qui avaient des soucis, surtout c'est les filles qui étaient en France, pour s'entraîner, pour avoir juste une salle de préparation physique. Et le pôle a tout de suite répondu, bah ok, vous pouvez venir ici, et ça c'est sûr que c'est rassurant aussi.
Alors justement, Jean-Baptiste, Sébastien, ça vous l'intégrez un petit peu dans votre préparation, de se dire que il y a la structure Pôle France qui est dans le développement des joueuses, etc. Mais derrière, on peut aussi avoir ce côté soutien des joueuses de l'équipe de France senior qui sont dans des championnats à l'étranger ou qui n'ont pas forcément de club, pour les accompagner et continuer leur projet avec cet objectif. Tu l'as dit en préambule, Jean-Baptiste, les Jeux Olympiques. Je veux dire, vous l'intégrez, vous l'anticipez un petit peu ou c'est naturel pour vous ?
Ce qu'il faut voir, c'est que tout d'abord, le Pôle France, c'est quoi ? C'est une structure d'entraînement et c'est, en tout cas pour ma part, c'est l'institution du hockey féminin. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement... C'est une structure qui permet d'accueillir toutes les joueuses qui ont le potentiel, hein, on parle de l'année seconde, et des joueuses qui souhaitent continuer leur entraînement pour différentes raisons, soit pour faire une préparation physique, soit parce qu'on l'a vu cette année, il y a eu avec la pandémie, ça a permis à certaines joueuses de continuer à s'entraîner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, c'est un principe d'entraînement qui est pour nous prioritaire, qui est l'individualisation. Donc, à partir du moment où on est dans l'individualisation, il n'y a aucun problème pour accueillir n'importe quelle joueuse, qui soit extérieure ou qui soit dans le Pôle France. Individualiser, ça veut dire rencontrer la personne et se mettre d'accord sur quels sont les points de progression prioritaires. Lorsque la personne soit vient, par exemple comme Laure, qui a une priorité là essentiellement en préparation physique, donc hop, tout de suite, la priorité c'est les échanges avec Jérôme. Il y a d'autres joueuses qui sont venues avec d'autres spécificités, et l'individualisation aussi en lien avec le profil des joueuses dans le pôle. Par exemple, une joueuse de seconde, il n'y aura pas le même type d'individualisation qu'une joueuse qui est en universitaire, parce qu'on a des joueuses qui vont jusqu'en universitaire. Et pour nous, ça, c'est vraiment un principe d'entraînement qu'on veut amplifier, qu'on veut continuer, parce que c'est la seule voie à la progression de la personne. Voilà. Ça n'empêche pas que l'individualisation n'empêche pas... Le risque, c'est l'individualisme. Et c'est là où je reviens sur... ce que disait Laure, c'est le maintien des valeurs qui ont été posées historiquement par ce Pôle France et par aussi cette équipe de France. C'est-à-dire que toutes les joueuses, et il n'y a pas de, comment dire, et c'est ça qui est très plaisant dans ce projet, l'attitude, l'engagement, le respect, comme tu disais Brice, cet esprit de famille, il est prioritaire et primordial dans ce projet.
Alors clairement, l'esprit de famille, oui, ce ne sont pas que des mots. Pour avoir un peu suivi et le Pôle France et l'équipe de France, on sent qu'il y a un groupe, comme on dit un peu maintenant à la blague, mais c'est pas une blague, le groupe vit plutôt bien. J'entends parler beaucoup d'entraînement, mais est-ce que, mine de rien, il ne manque pas un petit quelque chose à ce Pôle France qui est la compétition? Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des matchs internes au Pôle France? Vous organisez comment, je pense que c'est plutôt pour toi, peut-être Jean-Baptiste, comment vous organisez les confrontations tout au long de l'année?
J'ai envie de dire, c'est même pas trop la question pour moi, parce que dans notre organisation, je veux dire, dans notre fonctionnement, c'est vraiment une, comme disait Sébastien, il y a trois personnes. Il y a trois personnes qui sont Sébastien, Jérôme et moi-même au quotidien. La question de la compétition, c'est du sportif. À partir du moment où c'est du sportif, c'est l'aspect de Seb. Donc c'est Sébastien qui a la priorité sur les décisions sportives. Donc les filles sont engagées dans le championnat U15 masculin. Donc on joue normalement puisque cette saison ça a été un peu ça a été tronqué en raison de la pandémie. Mais comme on a organisé des matchs internes pour leur garder cet esprit de compétition. Pour nous, je vais laisser la parole après à Sébastien qui l'expliquera mieux que nous, mieux que moi. L'aspect de compétition, il est là plus dans le développement de la joueuse que dans le résultat.
Ouais, si on va un petit peu plus sur des sources, des données, il a été clairement établi que avant de faire un match de hockey, il faut au moins s'entraîner 3 fois semaine. Donc, il est sûr que déjà de ce principe-là, si on rentre dans la compétition, il faut au minimum 3 entraînements. Ensuite, je reviens à l'individu. L'individu ne doit pas attendre la compétition pour se challenger au jour le jour, à l'entraînement, glace ou hors glace. Donc, déjà, l'éducation à bien s'entraîner, à aller chercher la difficulté auprès de ses coéquipières, auprès de soi-même aussi, pour progresser. Ça, c'est pour moi la partie prioritaire. Ensuite, la partie compétition. Il est sûr que cette année, on a rencontré des difficultés, à savoir que l'équipe du Pôle France est inscrite en U15 élite. Les difficultés, c'est qu'il n'y a pas eu de championnat, donc on a fait 14 matchs internes blanc-bleu. La majorité des matchs internes sont finis à un but d'écart. Et puis, je pense que les joueuses ont profité de cette compétition pour progresser. Après, si on parle en lien avec le haut niveau, c'est quoi? C'est gagner quelque chose. Il est sûr que le point de réflexion à avoir, et puis je laisserai certainement peut-être Laure donner son expérience, c'est qu'il nous manque, c'est sûr, un championnat où on va, en ce moment, il y a la course au play-off en NHL, etc. L'équipe de France féminine va se battre pour le TQO. Rien ne remplace un match couperet, rien ne remplace un match où on joue véritablement une fin de saison. Voilà. Donc ça, on pourrait dire que oui, il y a un manque de ce côté-là, mais il n'y a pas de manque dans le développement de l'athlète à se challenger au jour le jour pour progresser. Et ça, il faut faire une grande différence, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, entraîneur, la partie prioritaire, c'est que la joueuse ait une qualité d'entraînement et qu'elle s'engage au jour le jour dans cette qualité d'entraînement.
Si je peux compléter sur l'engagement, ça rejoint le point précédent où tu demandais par rapport au fait d'accueillir des joueuses. Quand on accueille au Pôle France des joueuses, je veux dire externes, qui sont des joueuses de l'équipe de France, c'est toujours en concertation avec le staff technique des équipes de France, avec que ce soit Grégory, donc qui est notre référent technique, ou Emmanuel, qui est le manager de la performance féminine. Mais surtout, moi, je veux noter l'implication des joueuses et ça vient souvent des joueuses, une demande des joueuses qui sont vraiment impliquées dans ce projet, qui sont impliquées dans leur développement, dans ces points de progression. Et moi, je tiens à tirer un coup de chapeau à ces joueuses qui font la démarche parce qu'elles sont vraiment impliquées dans le projet et elles font les efforts de poursuivre leurs entraînements et de venir au Pôle France pour continuer, que ce soit pour améliorer certains points, comme disait Sébastien avec l'individualisation, ou se remettre en forme après une blessure. Et ça, c'est vraiment leur démarche et c'est en ça que c'est plaisant d'échanger avec les joueuses, avec le staff, parce qu'on a des personnes qui sont très impliquées et qui ont envie de progresser.
Est-ce qu'il manque pas finalement, pour que ce soit parfait pour le hockey féminin en France, un championnat ? Et qu'est-ce qui manque pour qu'on ait ce championnat en France ? Est-ce que tu as une idée, Laure ? Question pas facile, hein, je fais exprès.
C'est deux choses déjà, parce que un championnat, si tu parles d'un championnat de France féminin, il y en a un. Après, mais c'est aussi de dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, si on a toutes les meilleures, ou en tout cas, je ne sais pas, je dirais peut-être 80% des meilleures joueuses de ces années d'âge, de lycée, au pôle, déjà, ça enlève ces joueuses-là du championnat et ça ne serait pas cohérent de les faire jouer dans le championnat de France féminin. Donc déjà, c'est une question un peu difficile à répondre parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un championnat de France. Je pense que on va pas se mentir qu'aujourd'hui des joueuses de l'équipe de France senior ou des jeunes joueuses du Pôle France, ça peut être intéressant de jouer dans un championnat de France féminin aujourd'hui pour avoir des matchs ou pour se retrouver entre filles pour jouer au hockey, mais aujourd'hui le niveau du championnat de France féminin, il est pas assez fort pour que des joueuses comme nous on reste et on joue dans le championnat. Il est pas assez développé, je pense qu'il y a pas assez de moyens financiers aussi, les créneaux de glace, enfin c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses qui s'accumulent et je pense que aujourd'hui le choix il est fait pour qu'il y ait un championnat de France pour les joueuses de tout niveau qui ont envie de jouer et c'est très bien parce qu'il faut des joueuses qui jouent, qui se font plaisir à jouer au hockey, peu importe le niveau, ça c'est très important je pense aujourd'hui. Mais du côté de la performance, évidemment, avec des jeunes joueuses françaises qui sont au pôle, ces joueuses-là, ça n'aurait pas de sens qu'elles jouent contre d'autres joueuses féminines parce que c'est les meilleures de leur âge.
Non, moi, je suis entièrement d'accord, mais je voulais rebondir sur l'idée de perfection. Un projet n'est jamais parfait. Celui qui va dans la perfection, là, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais justement, la force d'un projet quand il est ambitieux et qu'il avance, c'est continuellement s'adapter par rapport aux contraintes que l'on a. On a une contrainte qui est pour l'instant que on arrive quand même à trouver un format de compétition, le U15, qui est quand même très développement pour les joueuses. Ça leur permet de développer surtout la partie offensive. Dans l'historique du pôle, le pôle a participé au championnat U17 élite. Là, j'ai peut-être fait une erreur historique, donc je regarde l'or. U17 excellent, je crois. Mais ces formats de jeu, de toute façon, étant donné que il n'existe pas de, enfin, il y a un championnat féminin, mais qu'il y a eu un choix pour le développement de ces joueuses d'aller dans de la mixité, ça reste quand même une très bonne opportunité pour ces joueuses-là à se développer. Voilà. Et la contrainte, la seule chose en effet, c'est pendant la saison, essayer de disputer des matchs un peu couperets qui permettraient de voir vraiment la compétition, on va dire, sur une forme de un petit peu plus stressante. Voilà. Mais je reviens sur l'idée qu'un projet doit constamment s'adapter. Et un projet qui est parfait, je dirais que c'est presque déjà la fin du projet. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Donc, nous, on veut continuer à réfléchir et continuellement faire avancer ce projet.
Oui, et puis je pense que moi, comme j'ai dit, j'ai fait partie de la première année du Pôle France. Et nous, à ce moment-là, c'était incroyable parce qu'on avait des créneaux de glace, parce qu'on avait de la prépa, parce qu'on avait un encadrement. Mais ce projet-là, il a tellement évolué. Quand je suis là aujourd'hui, cette semaine au Pôle, je vois l'évolution. Je vois des gens qui se sont investis, qui ont réfléchi à comment améliorer ce qui a déjà été fait. Et je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Comme dit Seb, rien ne peut être parfait. Moi aussi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait intéressant que les joueuses aient un championnat où à la fin, tu peux soulever la coupe, parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'anime et la compète, c'est quelque chose qui m'anime. Mais comme ça m'anime quand je fais une préparation physique où je veux toujours battre mes records, que je veux être la meilleure sur tout, même si C'est la vérité, c'est pas possible. Mais c'est l'objectif. Comme à chaque entraînement, si c'est blanc contre bleu ou peu importe, c'est je veux gagner et je vais faire en sorte que mon équipe elle veuille gagner aussi. Et puis voilà, c'est sûr que ça, c'est aussi des valeurs qu'on essaye de transmettre et qui sont importantes. Et je pense que c'est voilà, j'ai regardé un entraînement aujourd'hui. Je pense que les filles avaient envie de gagner le petit jeu blanc contre bleu et ça part de là aussi. Donc je pense que on est dans la bonne direction. On va voir si pour les futures saisons comment ça évolue quoi.
La compétition, tu sais, c'est pas juste le match. C'est comme disait Laure. C'est une compétitrice dans l'âme et tu peux pas lui enlever, c'est comme ça. Et nous avec Sébastien et Jérôme, on essaye de mettre ça au quotidien, mais pas uniquement sur la glace. Je sais que par exemple, on a installé dans la salle de musculation un tableau des records pour que les filles voient les performances des top joueuses en salle de musculation et elles compétitionnent en fait sur la prépa physique, sur qui va faire le plus gros soulevé de terre ou qui va faire le plus gros développé couché. C'est cet esprit de compétition qu'on met en permanence et où en fait l'athlète va développer son sens de la compétition au quotidien, mais la compétition avec elle-même en fait, pour aller chercher à chaque fois à être meilleur, pas forcément à battre l'adversaire, mais à battre son propre record, à aller puiser ce qu'elle a au fond d'elle pour se battre elle-même en fait.
Et ben voilà une réponse intéressante effectivement, parce que moi je m'étais basé sur compétition match, mais effectivement il y a d'autres réponses. Je vais avoir trois dernières questions. Je vais revenir un peu au début sur le projet. Il y a le projet sportif, il y a le projet scolaire, il y a l'extrascolaire. C'est quoi? C'est un tiers. Comment vous arrivez à organiser? C'est en fonction de la joueuse?
On revient complètement sur le principe d'individualisation dont parlait Sébastien tout à l'heure. C'est en fonction de la joueuse, en fonction de ce dont elle a besoin, que nous, on construit le projet avec elle. J'ai même envie de dire, c'est elle qui construit son projet. À partir du moment où elle entre au Pôle France, elle construit elle-même son projet. Nous, on est juste là pour l'accompagner, pour l'orienter, pour la guider, mais c'est elle qui construit son projet. Une joueuse qui rentre en équipe de France U16, c'est les premières choses qu'on leur dit. On veut des joueuses qui soient actrices de leur développement. On veut des joueuses qui soient actrices de leur projet, et c'est en ça qu'on va les accompagner, en fait. C'est leur choix. C'est leur carrière. Nous, on est juste là pour les accompagner, pour les guider. On a la chance d'avoir un entraîneur qui a énormément d'expérience et une bonne vision de la joueuse. Et le travail que réalisent Sébastien et Jérôme là-dessus, c'est incroyable à mon sens. Mais c'est vraiment la joueuse qui est au centre. C'est son projet. Nous, on est juste là autour pour guider.
Finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait le succès de ce Pôle France, c'est que vous prenez vraiment l'envie de la joueuse pour l'accompagner, à la fois pour se développer sportivement avec l'objectif sportif de l'équipe de France, qui aujourd'hui les JO 2022, et déjà, tu le disais, en termes de Pôle France sur 2026, c'est peut-être ça qui fait que ça réussit.
Ouais, moi, j'ai une petite phrase que je me suis mis sur mon casier dans le vestiaire, qui est moi, mon objectif, c'est que le rêve de chaque athlète soit réaliste. Et tu sais, je fais une différence entre réaliste et réalisable. Avec Sébastien, on rapproche quelque part ce rêve. Le réalisable, c'est l'athlète qui va le faire. C'est nous, on va pas le faire pour l'athlète. C'est elle qui va rendre son rêve réalisable. Nous, on lui amène juste le fait que c'est possible. C'est on va l'accompagner pour qu'elle puisse se dire: c'est possible, je peux le toucher du doigt, je peux y arriver. Mais le réalisable, c'était vraiment l'athlète qui va le faire.
Je vais prendre un exemple par rapport à toi, Brice. Ta vie, elle n'est pas segmentée. C'est Brice, c'est la vie de Brice. Et bien, c'est pareil pour la joueuse. La vie de la joueuse, elle n'est pas segmentée en disant ben là, c'est de la technique. C'est nous, entraîneurs, qui mettons des dimensions. On dit la dimension de la performance, où on segmente les choses pour essayer d'être précis. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de développer cet individu. Ensuite, on segmente les parties. pour pouvoir identifier, par exemple, voilà, il y a une joueuse qui arrive en seconde. Son rêve, c'est de jouer en NCAA. Bah, par rapport à ce rêve, qu'est-ce qu'on va identifier sur la technique individuelle, sur la préparation physique? Mais on va plus loin. Est-ce que tu sais parler anglais? Non? Ah, est-ce que tu penses que ce serait intéressant? Alors, on va t'aider à quel type de diplôme tu veux. Et puis, c'est là où tout se construit socialement. Comment tu fais? Est-ce que tu es responsable? Est-ce que, par exemple, on dit une information? Est-ce que la joueuse, elle va venir à l'entraînement? Elle est obligée de redemander? Et ça, c'est l'individu. L'individu, il vient pas en disant bah là, c'est technique, là, c'est physique. Non, là, l'individu, elle vient, elle fait sa journée, elle s'est levée, puis à la fin, elle fait sa préparation physique ou sa technique. Donc, c'est là où nous, on fait attention. C'est si on veut vraiment développer, je reviens sur ça, sur l'individu. Et ensuite, en effet, il y a différents champs de dimension, de la dimension, où on va prioriser pour que la joueuse puisse atteindre ses rêves. Moi, je dis souvent, atteindre ses rêves, c'est quoi? C'est mettre des objectifs, c'est créer des étapes et c'est d'aller au plus petit. Au plus petit, bah, c'est peut-être faire un développé couché avec, comme disait JB, sa volonté de rajouter deux rondelles de 2,5. Bah, nous, en tant que coach, quand on rentre, encore tout à l'heure, il y avait une séance difficile. Moi, quand je vois des joueuses d'elles-mêmes qui se mettent au développé couché, alors que ce n'était pas demandé, c'est une volonté de la joueuse de se mettre sur le banc. Et ben, c'est le plus grand plaisir, c'est ça. Voilà. Et je pense que c'est le plus grand plaisir de la joueuse de devoir se challenger constamment, comme disait Laure. C'est comme ça qu'on construit une victoire, la compétition. C'est en se challengeant au jour le jour.
Vous pensez que ce type de pôle, avec tout le contexte qui est probablement différent, serait réalisable côté garçon? Je ne compare pas. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que de ce que vous connaissez, de ce que vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait être réalisable ou réaliste?
Ben moi, je dirais qu'il faudrait que tu poses la question aux personnes qui sont en charge du hockey masculin. Moi, ça me voilà. Je pense que oui, mais je pense que c'est comme si tu posais la question. En ce moment, il y a un match de foot. Si tu me dis la question, est-ce que tu penses que l'équipe de France va gagner? En tant qu'entraîneur, c'est pas si simple que ça. Donc voilà.
Encore une fois, l'idée de ce podcast, c'était vraiment d'avoir votre vision, de rentrer un peu dans les détails. À titre personnel, je suis vraiment bluffé par tout ce que vous arrivez à mettre en place et ce que vous nous avez encore raconté sur le développement, etc. Je pense que vous êtes dans le... Enfin, je pense. C'est que mon avis personnel, mais effectivement, vous êtes plutôt bien dans le développement. Et je me dis pourquoi ça n'existe pas côté masculin. Est-ce que c'est plus compliqué parce qu'on a un championnat de France? Est-ce que finalement c'est dans les clubs que ça doit se faire et pas sur un pôle France? Quels sont les éléments de blocage? Alors effectivement, vous n'avez pas forcément la réponse. Mais voilà, je m'interroge parce que vous, ça fonctionne bien. Mine de rien, du pôle France, aujourd'hui, quasiment toutes les joueuses de l'équipe de France sont issues du pôle France et 80% jouent à l'étranger.
80% de l'équipe de France?
Oui.
Non, un peu moins quand même, mais en tout cas, sur le collectif élargi, là, aujourd'hui, si on prend on est une trentaine sur le collectif, là, qui a pour ambition de jouer le TQO, et je pense qu'il y en a quatre qui n'ont pas fait partie du Pôle France. Donc c'est sûr que, force est de constater que, voilà, on est une grosse génération, et la génération suivante à avoir bénéficié des installations et de la structure du pôle et à avoir atteint un des rêves qu'on avait de jouer pour l'équipe de France. Donc, je pense que c'est sûr que c'est à noter. Après, dans les joueuses qui sont à l'étranger, oui, je pense qu'on est à un peu plus de 60%, mais on a quand même des joueuses aujourd'hui du collectif qui sont établies depuis un certain temps, qui ont fait le choix de rester en France et de jouer avec les garçons, du coup, en mixité. Il y a des choix de carrière aussi différents en fonction de chaque joueuse. Ça, c'est, voilà, ça peut être lié au niveau scolaire, enfin, par rapport à la scolarité, par rapport à la vie sociale aussi. Et puis, il y a des très bons compromis qui peuvent être faits aujourd'hui avec des joueuses qui jouent dans le championnat de France U20. Élite, si je dis pas de bêtises là, c'est peut-être moi qui dis des bêtises, mais ça dépend les choix de carrière aussi, je pense.
Dernière question pour tous les trois. Comment vous le sentez, le TQO, là? On est encore à quelques mois. Il est très attendu. Il devait avoir lieu l'année dernière. Comment vous sentez? C'est quoi la dynamique, l'énergie dans l'équipe?
Moi, je peux pas répondre. Je suis pas dans le
staff. Frère, ça t'arrange?
Moi, ça m'arrange. Mais moi, j'y crois. Hein.
Alors moi, je suis pas dans un système de croyance où il y a des étapes. Le prochain regroupement, on a Emmanuel Collot, qui est le manager, a énormément travaillé pour qu'on ait des matchs. La prochaine étape, c'est d'être prêt pour affronter la Hongrie. Parce que le TQO, c'est en novembre. Et c'est toutes ces étapes qui feront que quand on fera la semaine de préparation au TQO, on verra où on est. Mais en tout cas, moi, entraîneur, je suis compétiteur. Je pense que Laure est compétitrice. Donc, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve pour moi de dire que on fera ces trois matchs. Enfin, ces trois matchs. Et puis on veut y aller.
C'est réaliste. Le réalisable, c'est les étapes après.
Non, je pense que c'est réaliste. Je pense que ça fait, voilà, ça fait quelques années qu'on s'entraîne. On a passé un cap aussi en termes d'équipe, en termes de préparation physique, en termes de structure, même en équipe de France, d'apport technique. Voilà, là aujourd'hui, on a une préparatrice mentale qui nous suit un peu. On a quelqu'un qui est venu par rapport au sommeil. Donc c'est beaucoup de choses qui s'ajoutent aussi pour arriver à la meilleure performance et être prêt le jour J. Je pense que tout est mis en place en tout cas, et je pense que voilà, le groupe fait aussi le travail, le groupe vit très bien. Donc voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que on le dit souvent, on est une famille, on est très soudés. Je pense qu'on est consciente de ce qu'on a besoin pour y arriver. Je pense que on fait les efforts dans peut-être que les petits détails ou les petites choses qui nous manquaient il y a 4 ans pour passer le cap. Ben voilà, on travaille là-dessus. Les autres aussi, donc on verra, mais en tout cas, bien sûr qu'on y croit. Et puis oui, il n'y a pas de croyance, mais en même temps, on part et on se dit que oui, on va le faire parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Puis je pense qu'on est un gros noyau, une grosse génération à se dire bah voilà, on a travaillé pour ça, et puis on a rajouté aussi des jeunes joueuses qui sont là, qui poussent et puis qui ont faim, donc qui veulent aussi faire leur part du travail. Donc je pense qu'on a un très bon mix pour arriver à faire de belles choses, quoi.
Si je résume un peu toutes nos discussions là, moi ce que je vois, c'est que c'est finalement une somme d'individualités qui arrivent à faire un très bon collectif. Et mine de rien, vous m'avez répondu sans me répondre. C'est que forcément, c'est dur de se dire oui, on va être qualifié au JO, il y a le TQO et le sport reste le sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais ça fait maintenant quasiment un an que je vous suis sur tous les stages dans le cadre de plans de match. Effectivement, je vois beaucoup de ça va peut-être paraître bizarre de le dire comme ça, mais beaucoup de professionnalisme et beaucoup de continuité aussi. C'est aussi une des raisons, comme je l'ai dit en préambule, on a commencé avec l'équipe de France, on termine cette saison avec le Pôle France, c'est pas par hasard. On a Sébastien qui est coach assistant sur les seniors, mais qui fait le lien avec le Pôle France. Tout ça, finalement, c'est tout un collectif qui va aussi bien d'Emmanuel Colliot, en passant par Jean-Baptiste, Greg, Seb et toutes les joueuses, qui fait que effectivement, il y a ce sentiment d'un vrai collectif. Et même si ça peut paraître bateau, quand on dit le groupe vit bien, vu de l'extérieur, le groupe vit bien. Avec ce qui peut apparaître dans un groupe, il peut y avoir un peu des tensions à droite à gauche, ça peut se ressentir quand on est sur l'extérieur, mais globalement, ce qu'on voit en termes d'évolution, vous faites tout ce qui est possible pour être prêt au mois de novembre, et ça, c'est finalement, c'est beau à voir. Donc maintenant, il faut juste réaliser ce qui est réalisable au mois de novembre. Et je vous remercie vraiment, parce que prendre le temps et donner des réponses, c'est jamais simple. C'est toujours la question un peu piège de dire bah, « il veut que je dise qu'on va aller au JO » et puis au mois de novembre, il va dire bah, « finalement, vous n'y êtes pas allé ». C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment de parler un peu de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Moi, je vous l'ai dit aussi. Je vous l'avais dit au mois de juillet, quand on s'était rencontrés. J'ai vraiment le sentiment que vous avez de vraies bonnes chances. Encore une fois, il faudra prendre ces trois matchs qui vont être compliqués parce qu'on est dans une compétition un petit peu particulière. Entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais effectivement, vous êtes dans de bonnes dispositions. Et je vous remercie du temps que vous prenez, que vous nous accordez pour qu'on puisse aussi parler de ce projet. Parce que le hockey féminin, finalement, vu de l'extérieur, et c'est moi qui vais le dire, me paraît plus structuré, plus dans la cohérence que le hockey masculin. Attention, le hockey masculin a des contraintes qui sont différentes. On n'est pas du tout dans le même type de hockey non plus, mais voilà. C'est quelque chose qui, pour moi, est frappant et c'est important de le mettre en avant. Donc, voilà. C'était important de faire ce lien-là. On va passer à la dernière partie de notre podcast. Vous allez entendre un petit jingle. Et je vais me tourner vers Jean-Baptiste pour commencer. En fait, c'est la partie où on pose la question à nos invités. Est-ce que tu aurais un livre lié au hockey ou pas que tu conseillerais?
Des livres, il y en a beaucoup. Moi, si il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est le livre de Phil Jackson, qui a été l'entraîneur des Lakers, qui a entraîné Michael Jordan. Et voilà, je trouve qu'il y a une... C'est une personne qui a managé des grands joueurs, des grandes individualités pour faire des grandes équipes et le nombre de titres qu'il a pu gagner démontre de sa qualité à gérer ses individualités et ses équipes. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas du hockey, c'est du basket, mais ça se rejoint.
Tu aurais le titre de ce livre?
Phil Jackson, un coach, 11 titres NBA. Voilà. Et en ce moment, je lis Behind the Bench, qui est les récits d'un journaliste qui va rencontrer des coachs NHL et des coachs internationaux sur leurs expériences de matchs, des plus grands matchs, des finales de Jeux Olympiques, des finales de Coupe Stanley. Voilà. Et c'est super intéressant. Il a baladé avec son camping-car pour aller rencontrer ces coachs prestigieux.
Merci. Sébastien, est-ce que tu as un conseil lecture à nous faire?
Alors moi, j'adore le Larousse de la cuisine. Ça me détend. Et c'est vraiment important de se détendre. Donc, c'est quelque chose que je prends déjà pour faire des pâtisseries. Et puis là, il y a une joueuse qui m'a prêté un livre dernièrement. Parce que je ne suis pas trop livre hockey ou management. J'aime bien avoir des livres plus qui me... Voilà, qui m'aide à réfléchir ou qui me apporte un peu de vibration. Et là, c'est Laure, tiens, justement, c'est le hasard. Il m'a prêté un livre, je crois que le titre, c'est La colère des femmes. C'est ça, Laure?
Le pouvoir de la colère des femmes.
Ah oui, il y avait un aspect pouvoir, là, le pouvoir de la colère des femmes. Bien. Donc, un livre très, très intéressant sur, justement, là, tu étais un peu sur les différences. Alors, tu étais une différence de projet, là, c'est plus une différence de genre et comment peuvent évoluer ce rapport de pouvoir justement homme-femme. Donc c'est un livre captivant que je lis en ce moment, voilà.
Et ça me fait penser, j'ai pas posé la question, mais comme quoi c'est tout à fait naturel, coacher des joueuses, est-ce que c'est plus compliqué que des joueurs?
Non.
Voilà.
Non, c'est si on est sur des valeurs d'engagement, d'intensité, c'est pas plus compliqué. Ensuite, bien sûr qu'il y a des particularités, mais il y a des particularités entre des adultes, des adolescents, entre un joueur, une œuf et puis une adulte. Mais le socle commun qui est pour moi l'attitude, l'intensité, le développement, ça reste identique avec bien sûr un infime pourcentage. Si on prend 100%, ben c'est sûr qu'il y a une particularité de 5%. Mais dans tout projet, il y a des particularités. Donc voilà.
Et on finit par la meilleure. Laure, est-ce que tu aurais un conseil lecture autre que celui que tu as donné à Sébastien?
Aucun lien avec le management, mais moi, je lis Harry Potter beaucoup, plein de fois. Et quand j'ai envie de me vider la tête et quand j'ai envie de penser à rien, bah je lis Harry Potter ou je regarde Harry Potter parce que j'adore comment c'est écrit, j'adore lire. Là en ce moment, je lis la biographie de Michelle Obama. Je reste un peu dans les mêmes thématiques avec Seb, là, le livre que je lui ai donné, ça se relie un petit peu. Mais j'adore Harry Potter et puis sinon je lis un peu de tout.
Je note tous ces livres. Je vais vous remercier vraiment. Merci Jean-Baptiste.
Merci à toi. Merci de prendre le temps aussi de donner un peu de place aux, au hockey féminin et au pôle.
Merci Sébastien.
Ben merci Brice.
Et puis ben merci Laure. Et puis on se voit bientôt. Hein. On se croisera autour d'une patinoire, j'espère. Et puis comme je l'ai déjà dit, on va tout faire. Et en tout cas, au TQ, on sera là. Merci vraiment.
Ben merci à toi.
Ben voilà, on va continuer hein, la saison prochaine. Comme je vous l'ai expliqué en préambule, c'est notre dernier podcast de la saison. On travaille sur... sur déjà la saison prochaine avec, on espère, quelques surprises, que ce soit au niveau du championnat de France ou au niveau de d'autres championnats pour faire intervenir des acteurs du hockey français. Continuez à nous écouter et puis on vous dit à très bientôt.